des possibilités énormes. Et on voit que des jeunes veulent partir.
Ça manque d'air à Oran. Et la mer n'y change rien.
Nous autres, ce soir, à partir de 20h. France Inter. La différence.
Il est 15h04 sur Inter, l'heure de retrouver là-bas si j'y suis avec Daniel Mermet.
Ceci est un message de Thomas Jefferson qui date de 1802, Jefferson étant le troisième président des États-Unis. Je pense que les institutions bancaires sont plus dangereuses pour nos libertés que des armées entières prêtes au combat. Si le peuple américain permet un jour que des banques privées contrôlent leur monnaie, les banques et toutes les institutions qui fleuriront autour des banques priveront les gens de toute possession par la récession jusqu'au jour où leurs enfants se réveilleront sans maison et sans toit sur la terre que leurs parents ont conquise. Thomas Jefferson, 1802.
Alors voyons ce qui me reste sur mon compte. Hein ? Plus ce qui reste sur le compte de ma femme, hein, plus le montant du livret A. Voilà, bon, voyons maintenant les dépenses. Le jogging du petit et les baskets, bah, je peux les retirer, j'ai bien fait de l'inscrire à la rentrée à la natation. Bon, la literie, elle est un peu défoncée, mais... ça attendra bien février-mars. Bon, mes deux dents cariées, ça me fait pas trop mal. On va attendre janvier pour le dentiste. Sinon, bah, il reste la voiture. Bon, les pneus sont un peu lisses et les freins un peu foutus, mais comme je vais pas à m'en servir pour des longues distances avant août prochain, ça attendra aussi. Alors voyons ce que ça donne. Ben voilà, elle a raison la BCE en fait. Les prix sont stables, on peut parfaitement s'en sortir. Il faut arrêter d'affoler les gens avec les prix qui explosent, qui flambent, etc. Daniel, franchement, c'est pas sérieux. Il suffit de faire comme moi, de remettre à plus tard les dépenses qui sont pas urgentes, et comme ça, tout le monde pourra faire comme moi, et à Noël, se payer une superbe salade de fruits frais pour 4 personnes. Peut-être même 6. Enfin, si j'ai des invités.
Nous pensons créer un comité de soutien pour Nicolas, parce que tous ces journalistes de gauche dont France Inter est truffée ne font que dire du mal de lui, alors qu'en fait il a une politique très correcte. Donc vous pouvez envoyer vos dons à Liliane Bettencourt, qui lui transmettra. Nous vous remercions.
Ce soir, à 19h, il y a en avant-première la projection du film Grand Puits et Petite Victoire, en présence d'Olivier Azam, le réalisateur, et Christophe Gibert, de l'intersyndicale de Grand Puits. Donc, on vous donne rendez-vous à 19h au cinéma Le Comédien, à 7. À bientôt, au revoir.
Salut, je suis Philippe de LAPES. LAPES, c'est une association de chômeurs et de précaires. Ce samedi 8 octobre, nous organisons avec d'autres associations de chômeurs et des soutiens la 9e édition pour la 9e année consécutive, malheureusement, de la manif contre le chômage et la précarité. Le chômage et la précarité restent de véritables barbaries vécues quotidiennement dans notre chair. Venez le dire avec nous, à partir de 12h, un pique-nique géant, place Stalingrad à Paris, et puis à partir de 14h, manifestation jusqu'à la place de Clichy. Ça veut dire que nous, on va pas faire un bastination, mais on va traverser un des vrais derniers quartiers populaires de Paris en traversant ce quartier-là de Barbès. Ce sera pour nous, et on l'espère, la première manif de la fin de l'ère Sarkozy, mais aussi la manif qui enverra un message qu'on veut fort et clair à celui ou à celle qui lui succédera comme président de la République.
La vie d'un homme compte si peu pour vous, homme politique, qui avait mis la haine dans le cœur des gens, que ce cheminot qui risque sa vie chaque jour pour que le service public continue aussi bien que possible, malgré vos coupes drastiques, vous trouvez inadmissible ce droit de retrait. Et vous, les gens qui rouspétez, cet homme blessé, cela pourrait être votre père, votre fils, votre amant. Bon courage, merci, au revoir.
Daniel, bravo pour cette série d'émissions sur la BCE. Hier, en entendant par moments l'hymne européen en musique de fond, sans doute diffusé dans les halls de la BCE, je n'ai pas pu m'empêcher de faire un lien entre la violence des décisions de Trichet et consorts et l'ultra-violence associée à cette même musique, 9e de Beethoven, dans Orange Mécanique de Stanley Kubrick. Salut.
En réalité, ce qui est en train de se passer en Europe, c'est un coup d'État. C'est le coup d'État, la prise du pouvoir par les banquiers mondiaux, Goldman Sachs et JP Morgan en tête, de gouvernement de l'Europe. C'est un coup d'État qui est fait un peu comme en 58. De Gaulle prenait le pouvoir avec l'Assemblée nationale qui le lui donnait par peur des parachutistes. Eh bien là, nous allons avoir tous nos gouvernements européens carpet qui vont leur donner tous les pouvoirs par peur de l'effondrement économique. Normalement, s'il y avait encore des démocrates et des républicains, on devrait tous être avec une fourche à la main dans les rues pour aller pendre quelques financiers à la lanterne.
Ah ah, une fourche à la main dans les rues. C'est peut-être ce qui va se passer à la fin de l'émission d'aujourd'hui, mais c'est pas sûr. Aujourd'hui, terme de ce voyage à Francfort, capitale du capital, à la Banque Centrale Européenne, dont le nom est lié à celui de Jean-Claude Trichet, et on va rencontrer Jean-Claude Trichet avec François Ruffin. C'est plutôt François Ruffin qui a rencontré Jean-Claude Trichet, qui lui a posé un certain nombre de questions au même moment où Jean-Claude Trichet est dans toute la presse, dans tous les médias, alors qu'il arrive au terme de sa mission à la Banque Centrale Européenne, mais où il propose de recapitaliser les banques qui sont en mauvaise posture, comme vous n'êtes pas sans le savoir. Avant de retourner à Francfort, je voudrais remercier chaleureusement ceux qui m'ont reçu hier soir à Limoges pour cette soirée, le 10e anniversaire de Mémoire à Vif. Et puis nous avons vu ensemble le film de Jacques Panigel, Octobre à Paris, qui retrace la journée du 17 octobre 1961, mais les journées précédentes, les mois précédents, et avec des éléments tout à fait étonnants et bouleversants sur le bidonville de Nanterre. C'est un film qui a été très longtemps interdit, puis que son auteur, son réalisateur, Jacques Panigel, n'avait pas souhaité qu'il fût vu dans cet état. Jacques Panigel maintenant a disparu et le film est visible et sortira dans les salles prochainement. C'est un document évidemment hors pair, dont on reparlera dans les jours prochains. Évidemment, vous avez compris, on va consacrer un certain nombre d'émissions au 17 octobre 1961. Et je vous rappelle, lundi prochain, une soirée en hommage aux victimes algériennes, avec l'association Au nom de la mémoire, une soirée au Cabaret Sauvage à Paris, à la Porte de la Villette, avec Stéphane Hessel, avec Benjamin Stora, avec toute une série de personnalités, de musiciens, de débats de toutes sortes. C'est à 19h, donc au Cabaret Sauvage, lundi, et j'y participerai pour ma part. Donc aujourd'hui, rencontre avec Jean-Claude Trichet à la Banque Centrale Européenne pour comprendre quelle est la taille de la fourche qu'il faudra préparer pour la fin de cette émission. Mais auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la basse édition au 01 56 40 37 37.
Salut Daniel. Dis-moi, je suis à Lyon, là, de Vendée, Philippe. Donc, je suis à Lyon avec tous les travailleurs sociaux qui sont en train de défendre leur convention collective 51. On est aussi de la 66 et on fait du bruit. Il y a eu quelques blessés ce matin à cause d'une mauvaise manie, un mauvais mouvement et repoussé par les CRS. Et ça, c'est pas très bien passé pour trois de nos camarades, trois de nos copines qui sont tombées. Et voilà, on est poussé à bout, là, par nos patrons. Et ça va mal. Merci pour tout. Salut.
Allô Francfort, ici c'est Belfort. Je suis Emmanuel, donc à Belfort, je suis professeur d'histoire-géographie. Et je vous appelle parce que, voilà, il semblerait que la culture soit maltraitée parfois en France. Et elle est maltraitée même à l'école, parfois. Il y a de nouveaux programmes d'histoire-géographie au lycée général en France depuis cette année. Et dans ces nouveaux programmes, eh bien, de quoi il s'agit ? Il s'agit d'un gavage intellectuel light, où l'on multiplie les questions de façon superficielle. Donc, encore une fois, il nous semble que c'est la formation citoyenne et l'esprit critique qui en prend un coup. Alors, on essaie de se soulever contre ça, on essaie de se battre un peu, mais ce n'est pas facile. Donc, des collectifs se créent, les syndicats se mobilisent un petit peu aussi. Soyez attentifs, tous, car c'est une vraie menace.
Bonjour, il avait 56 ans, il est mort d'un cancer du pancréas et il a aidé les gens jusqu'au bout. Le docteur Armelin était chef du service néphrologie à l'hôpital Mono en Seine-Maritime. Il m'a aidé à surmonter ma maladie et je pensais que lui aussi méritait un hommage public. Voilà, bonne journée à tous, au revoir.
Salut à tous, un petit renseignement généreux. Comme tous les ans, on va tenir le stand des éditions Agone au Festival du Livre de Montsartou dans les Alpes-Maritimes. On fera donc présent sur place vendredi, samedi, dimanche avec les livres d'Agone, avec les DVD aussi de CP Productions, avec les DVD bien entendu des Mutins de Pangée. On aura notamment le petit flyer qui permet de participer à la souscription du film sur Howard Zinn. Et puis on aura bien entendu les bouquins de Ruffin, les Fakirs, les Tio Fakirs, et puis tout un tas de petites bricoles à vous proposer dans le cadre du Festival du Livre. On va se marrer, il y aura du monde, on va rigoler, mettre un petit peu d'ambiance dans un endroit où bien souvent il y en a guère. Allez, ciao, viva, portez-vous bien, vendredi, samedi, dimanche, Festival du Livre de Montsartou, édition Agone. Viva!
Les Italiens ont peur de l'avenir, une crainte relayée ce mardi matin par les unes des grands journaux du pays.
Il y a la justice sociale.
Jean-Claude Trichet, président de la Banque Centrale Européenne.
Qui est fondamentale.
Même les grèves générales commencent à lasser les Grecs, excédés par l'état de leur pays et appuyés par les propos de leur ministre de l'économie, qui évoque une situation désespérée pour la Grèce.
La justice sociale est essentielle.
Le peuple avant le profit. Le message est brandi sous les fenêtres de Brian Cowen, le premier ministre irlandais. Quelques dizaines de personnes venues manifester leur colère après l'annonce du plan de rigueur. Tous réunis pour dire stop à leur gouvernement. Des milliers de Portugais ont défilé dans les rues de Lisbonne et Porto. Ils sont venus de l'ensemble du territoire pour protester contre les mesures d'austérité du gouvernement.
J'ai toujours considéré que la justice sociale, encore une fois, était un élément fondamental.
Dans la crise, là, pour vous, Jacques Généreux, la Banque Centrale Européenne sauve qui ? Elle sauve les États, les peuples ou les banques ?
Les seules interventions qui ont été faites sont des interventions qui visent à sauver les banques, qui visent à sauver le fonctionnement du marché monétaire. Point.
C'est Daniel Mermez, et là-bas, si j'y suis avec François Ruffin. Francfort, capitale du capital, la Banque Centrale Européenne ne fait pas de politique. Vraiment ?
Bon, aujourd'hui, Daniel, ça a été long, mais aujourd'hui, Daniel, j'ai enfin obtenu une promotion. Parce que ça fait 5 ans que je suis à là-bas, si j'y suis. J'en ai un peu ras-le-bol des syndicalistes, des licenciés, des usines qui ferment. Des muraux aux murs gris, la machine à café qui tout saute, des pneus qui crament devant l'usine, des odeurs de merguez. Et là, maintenant, je vais rencontrer les grands de ce monde. Aujourd'hui, je vais m'entretenir, on dit comme ça quand on rencontre les grands de ce monde, je vais m'entretenir avec le grand argentier de l'Europe, Jean-Claude Trichet. C'est un entretien au sommet. Puisque je l'attends au 36e étage de l'Eurotower, au 36e et dernier étage de l'Eurotower, à Francfort. Je révise avec mon petit cahier sur les genoux, dans la salle du Conseil des gouverneurs. Je révise. Je révise pas la technique monétaire, les eurobonds, les couvertures de change, tous les machins à quoi je comprends rien. Hein. Je révise de la politique, parce qu'à mon avis, et c'est pour ça là que je suis là, Jean-Claude Trichet, c'est un dirigeant politique de premier rang qui fait de l'ultralibéralisme comme Monsieur Jourdain faisait de la prose, presque inconsciemment, comme il respire, sans s'en apercevoir. Je révise avec un article du Monde, la biographie de Jean-Claude Trichet, conseiller de Valéry Giscard d'Estaing à l'Élysée en 1978, directeur de cabinet d'Édouard Balladur alors qu'il était ministre de l'économie et des privatisations en 1986, donc père de la désinflation compétitive, on nous dit, d'après Le Monde, professeur d'économie de Pierre Bérégovoy, qui convertit Pierre Bérégovoy au Francfort, négociateur du traité de Maastricht, ayatollah de la stabilité monétaire, on lit aussi, et véritable ministre de l'économie de la France. Voilà tout ce qu'on lit dans la biographie de Jean-Claude Trichet. Je révise pour faire aussi bien que Nicolas Demorand ou Stéphane Paoli, mais c'est pas dit. C'est pas dit parce que là, franchement, tout seul sur mon petit fauteuil, en attendant Jean-Claude Trichet, mon cahier ouvert sur les genoux, je la ramène pas. Déjà à l'avance, avant même qu'il soit là, je me sens comme écrasé par le prestige du lieu, par le décor. Et il va arriver, et puis il va arriver entouré de son staff, de ses conseillers en communication. Mais enfin, il me semble que les questions que je vais lui poser sont légitimes.
Voilà, François Ruffin avec son petit cahier sur les genoux qui va rencontrer Jean-Claude Trichet. La présenter, vous connaissez ce personnage, Jean-Claude Trichet, vous le connaissez comme le gouverneur de la Banque Centrale Européenne. Vous savez que son mandat s'arrête dans quelques semaines. Et ce personnage est cité, ses décisions sont prises très très au sérieux, au mot près, un véritable oracle qui a une influence très grande sur la vie économique, mais aussi sur les gouvernements, c'est-à-dire sur les politiques, sur le monde politique, alors qu'il n'a, et sa banque non plus, cette Banque Centrale Européenne, aucune responsabilité démocratique. Aujourd'hui, M. Trichet et la Banque Centrale Européenne sont en une de l'actualité, puisque Le Monde nous dit que l'Europe, enfin, est décidée à secourir ses banques. Trichet lâche sa dernière vanne, c'est-à-dire, ça c'est pour Libération, pour son ultime conférence, le président de la BCE a annoncé de nouveaux prêts aux banques qui, vous le savez, sont pas dans la meilleure santé actuellement en Europe. Et ça nous amène à nous poser une question toute simple, toute bête. À quoi devaient servir les banques ? À quoi devaient servir les banques ? On pourrait quand même se poser la question. Et on a vu dans les jours précédents, dans les reportages précédents, dans le numéro précédent, qu'il est arrivé que les banques servent à autre chose que les rentiers, les investisseurs. Il est arrivé que ça serve aux entreprises, aux petites entreprises et aux gens d'une façon tout à fait générale, au moment où elles ont été, par exemple, en France, nationalisée. Donc il y a quelque chose de très important là-dedans qui se joue, mais qui se joue derrière le rideau, derrière le... Non, nous ne faisons pas de politique. Nous ne faisons pas de politique, vraiment, point d'interrogation. C'est la question qu'on avait voulu, avec laquelle on est parti, et avec laquelle nous arrivons aujourd'hui au bureau, devant le bureau de Monsieur Jean-Claude Trichet, à Francfort. C'est notre sujet du jour, c'est jusqu'à 16h, c'est là-bas si j'y suis.
Si je pouvais devenir un jour grand économiste, comme Monsieur Jacques Delors ou Monsieur Raymond Barre, je chercherais la solution pour stopper cette crise. Vraiment mes amis, mais je n'y peux rien. Dans toutes les conférences budgétaires et monétaires, et dans tous les discours de la politique actuelle, même la Banque mondiale déplore cette crise.
Conjoncture, crise économique, c'est la sécheresse des banques.
amuser, mon ami. Viens, ma chérie, on sera bien tous les deux. Mais ne compte surtout pas sur mon portefeuille, mon ami, car il est vide à cause de la conjoncture. Aïe, aïe, aïe.
Conjoncture, conjoncture, crise économique, c'est la sécheresse des banques.
Donc, monsieur Jean-Claude Trichet, on est dans la salle du Conseil des gouverneurs, au sein des seins de la Banque Centrale Européenne. Vous occupez votre place de président. Vous avez sorti vos billets d'avion que vous devez vous faire rembourser, j'imagine, sur la table. Et vous posez sur vos billets d'avion une petite cloche.
La cloche du président qui permet de marquer le début du Conseil des gouverneurs, précisément. En effet, nous sommes dans cette salle du Conseil des gouverneurs avec une table ronde autour de laquelle tous les membres du Conseil des gouverneurs peuvent se retrouver. Nous sommes 23, 17 gouverneurs de Banque Centrale Nationale, parce qu'il y a 17 pays qui ont la monnaie unique euro, et puis 6 membres du directoire.
Vous venez de tenir une conférence de presse, et à la fin de cet introductory statement, vous avez parlé de structural reforms, donc de réformes structurelles, avec plus de flexibilité sur les salaires, plutôt faire des accords d'entreprise que des accords de branche ou des accords nationaux, pour répondre aux besoins immédiats des entreprises. Vous avez souhaité la privatisation de services actuellement fournis par le service public. C'est un vrai programme de gouvernement. Vous êtes candidat en 2012 ?
Non, certainement pas. Non, c'est ce que le Conseil des gouverneurs donc pense important pour que l'on puisse avoir en Europe le plus de croissance et le plus de création d'emplois possible. Nous avons le souci de passer des messages sur la politique budgétaire et sur les politiques de réforme d'une manière générale. Et les éléments que vous avez évoqués sont dans l'esprit de mes collègues et de moi-même des éléments importants pour faire en sorte que l'Europe croisse plus vite. Et nous croyons qu'il y a des moyens pour croître plus vite et créer plus d'emplois.
Les Italiens ont peur de l'avenir. Une crainte relayée ce mardi matin par les unes des grands journaux du pays.
Euronews.
Selon le Corriere della Sera, Silvio Berlusconi a reçu un courrier secret de la Banque Centrale Européenne.
9 août 2011.
Cette dernière, en échange de son soutien à l'Italie, a demandé au Cavaliere d'adopter de nouvelles mesures destinées à atteindre un budget équilibré d'ici 2013 au lieu de 2014. Information confirmée par le président de la BCE lui-même.
Nous avons demandé de manière extrêmement claire pendant les derniers jours au gouvernement italien de prendre un certain nombre de décisions qui ont été prises et d'accélérer en particulier le retour à une situation budgétaire normale. Nous avons demandé la même chose au gouvernement espagnol.
Alors, ce qui peut surprendre, c'est que dans cet introductory statement, vous donnez des conseils aux États sur les réformes structurelles. De la même manière que ce qui m'a interpellé pendant l'été, c'était un article paru dans le Figaro où on voyait Silvio Berlusconi complètement abattu parce qu'il venait, nous dit-on, de recevoir une lettre de Mario Draghi et de vous, lui enjoignant de réformer le code du travail, de faciliter les licenciements, de privatiser un certain nombre de secteurs et de faire tout ça en passant non pas par l'Assemblée parce que c'était trop lent, mais en passant directement par décret. Ce qui surprend, c'est ces ordres qui sont donnés aux États, et dans le même temps, on livre des crédits à la finance sans condition. Crédit illimité, dit-on, sans condition.
Non, d'abord, nous ne donnons d'ordre à personne. Nous passons des messages qui sont simplement, encore une fois, tout entièrement orientés sur l'idée d'arriver à avoir plus de croissance et plus de création d'emplois. C'est ça, ce sont des messages, et des messages qui sont clairement inspirés. Alors, s'agissant de l'Italie, par exemple, nous n'avons rien ordonné à l'Italie. Nous avons un respect infini pour le fonctionnement démocratique, par définition. D'ailleurs, nous sommes nous-mêmes, en dernière analyse, responsables devant les gens eux-mêmes, hein, devant le peuple. Donc, ce que nous avons simplement dit, c'est qu'effectivement, on avait un problème très sérieux de crédibilité, de qualité de la signature, qui était extrêmement handicapant. Et nous a semblé nécessaire à mon collègue Mario Draghi et à moi-même de dire ce que nous croyons devoir dire en âme et conscience.
Mais alors, sur comment ça se fait que pour les États, on invite les États à des réformes structurelles, à la flexibilité du marché du travail, à la privatisation du secteur public, et que pour les banques,
c'est crédit illimité, sans condition, sans qu'on dise, bah voilà, ça doit pas partir dans des bulles spéculatives. On flèche, si on vous donne de l'argent, si vous pouvez avoir de l'argent à 1,5%, c'est que pour ça se retrouve dans l'économie réelle.
Donc ce que nous disons aux banquiers, c'est la même chose. C'est d'abord, vous devez respecter strictement l'ensemble des règles qui ont été posées pour assurer une régulation correcte de l'ensemble du secteur financier. Ils protestent en nous disant « mais ces règles sont trop dures, trop difficiles ». Donc au contraire, nous avons des relations qui sont, avec les banques, plutôt des relations tendues.
Mais dans votre introductory statement, là, il n'y a pas un mot adressé aux banques pour dire « attention au bonus ».
Si. Si, si, c'est que vous n'avez pas lu avec beaucoup d'attention. Donc je vais retrouver le passage sur les banques. Nous leur disons, là où il est nécessaire, il faut que vous donniez du crédit à l'ensemble de l'économie. Il faut que vous reteniez chez vous vos profits, que vous ne les distribuiez pas, de manière à être prêt à aider l'économie.
Voilà les propos de Monsieur Trichet, pour commencer, les réponses aux questions de François Ruffin, de la basse J'y suis. Alors, un autre point de vue, bien sûr, hein, vous savez, nous, c'est l'équilibre, c'est, voilà, 5 minutes pour cela, 5 minutes pour ceci, 3 minutes pour celui-là, 3 minutes pour celui-ci. Nous sommes des journalistes équilibrés, objectifs, tout à fait neutres. Voilà pourquoi nous nous tournons maintenant vers Jacques Généreux, qui est économiste, professeur à Sciences Po, et qui est conseiller pour les questions financières au parti de gauche.
Dans la crise, là, pour vous, Jacques Généreux, la Banque Centrale Européenne sauve qui ? Elle sauve les États, les peuples ou les banques ?
Les seules interventions qui ont été faites sont des interventions qui visent à sauver les banques, qui visent à sauver le fonctionnement du marché monétaire, point. Des choses qui sont loin de sauver les peuples. Quand vous imposez comme condition le recul de dépenses sociales, la baisse des salaires des fonctionnaires, par exemple, en Grèce, quand vous imposez la remise en cause de régimes de retraite, rien n'est fait pour les peuples. Alors, si on pouvait, s'il y avait l'excuse de dire « oui, certes, on impose des sacrifices aux peuples, mais c'est ce qui va permettre de sortir la Grèce de l'ornière financière », et donc, à terme, c'est un bienfait pour la population grecque. On dira, ah, peut-être, mais il se trouve que ce n'est pas le cas. C'est-à-dire qu'on fait des plans successifs, et à chaque plan nouveau, la situation de la Grèce est pire qu'au plan précédent, et on ne change rien à la nature des plans. On continue avec la même méthode, qui est l'austérité. Et donc, ça prépare simplement le plan suivant, qui devra constater que le remède mis en place a aggravé la maladie. Et donc, il faut continuer à appliquer le même remède pour aggraver encore la maladie. C'est ce que l'on fait. Et c'est à cela que la Banque Centrale Européenne prête son concours. Si Monsieur Jean-Claude Trichet, s'il avait quelques lueurs de connaissances économiques, il serait bien placé pour dire au gouvernement « Mais arrêtez cette stupidité qui consiste à tous vous entendre pour faire de l'austérité en même temps pour régler un problème de dette, alors que le béaba hein, de la connaissance du fonctionnement de l'économie en première année d'études de sciences économiques au premier trimestre à la première heure de cours, ou simplement le bon sens, conduit à savoir que cette méthode-là aggrave les difficultés financières des États. » Donc il devrait dire, arrêtez de faire ça, mettez-vous d'accord pour un plan de solidarité financière et d'action conjointe pour soutenir l'activité, l'emploi et les salaires en Europe, et ça va régler le problème de la dette. Voilà ce qu'on attendrait d'une banque centrale utile et responsable. On a exactement le contraire.
Ce qui me surprend, c'est que quand la Banque Centrale Européenne prête aux banques, c'est sans condition, tandis que quand elle vient pour sauver les États, il y a automatiquement des tas de conditions qui sont posées derrière.
Oui, c'est-à-dire que tant que vous prêtez à des acteurs qui respectent le modèle qui est le primat de la finance, alors là, c'est sans condition. Hein, ils font partie du club, donc eux, il faut les sauver. Et alors, pour tous les autres, évidemment, le soutien, c'est sous condition eh bien, qu'ils rentrent dans le club. Qu'ils rentrent dans le club des adorateurs de Milton Friedman et des adorateurs de l'inflation la plus faible, de l'austérité financière, de la rigueur financière. Alors s'ils acceptent de rentrer dans ce club et de le prouver par le sacrifice d'un bras, d'une jambe et de deux oreilles, à ce moment-là, vous pouvez les aider.
DSR.
Même les grèves générales commence à lasser les Grecs.
5 octobre 2011.
Excédés par l'état de leur pays et appuyés par les propos de leur ministre de l'économie, qui évoque une situation désespérée pour la Grèce. Les syndicats des services publics prévoient de reconduire une grève générale dans 2 semaines pour protester contre les licenciements des fonctionnaires et les baisses des salaires et des rentes.
Il faut que tous les secteurs de la société se mobilisent, sans quoi c'est la fin de ce pays qui se profile.
Dernière mesure en date, le licenciement progressif de 30 000 fonctionnaires après de fortes augmentations d'impôts et de taxes, sans oublier les diminutions de salaires et des retraites.
Jean-Claude Trichet, c'était votre avant-dernière conférence de presse, là. Vous cédez la place à Mario Draghi. Et on peut dire que ça clôture pour vous 25 ans de combat, 25 ans de combat contre l'inflation.
Oui, je continuerai à avoir les mêmes idées après, naturellement. C'est en effet même une trentaine d'années mises au service, je crois, de la modernisation de nos économies, de notre économie, bien sûr, pendant toute la période où j'étais en France, de l'ensemble des économies européennes, avec encore une fois dans l'idée que, grâce à la stabilité des prix, on crée les conditions d'une croissance durable.
Alors je disais 25 ans de combat contre l'inflation. Je lisais dans un article du Monde que vous étiez un véritable ministre de l'économie, comme s'il y avait eu un ministre, des ministres de l'économie avait tourné, mais derrière Jean-Claude Trichet était resté, que vous étiez le père de la désinflation compétitive dans les années 80. Et le professeur d'économie de Pierre Bérégovoy, qui l'avait converti au Francfort. Vous voulez l'article du Monde, qui est aussi flatteur pour vous?
Oui, oui, il faudrait me le montrer, parce que oui, c'est enfin, évidemment trop flatteur.
On lit aussi que vous étiez le négociateur du traité de Maastricht. On vous dit passer du Francfort avant Francfort. On parle aussi de vous comme d'un ayatollah de la stabilité monétaire. Vous vous battez contre l'inflation encore lors de la conférence de presse d'aujourd'hui. Et en février dernier, vous avez fait une sortie, pour ainsi dire. Vous avez déclaré encore dans votre lutte contre l'inflation, augmenter les salaires serait la dernière bêtise à faire. Dans le même temps, on notait que les dividendes du CAC 40 avaient augmenté de 13%. Le chiffre était livré à peu près à la même période. Ils atteignaient 40 milliards d'euros. Et là, vous n'avez pas profité du passage sur cette antenne pour vous élever contre l'inflation des dividendes, finalement.
J'ai toujours dit qu'il fallait que les revenus, d'une manière générale, soient modérés, les augmentations de revenus soient modérées, qu'il s'agisse évidemment des revenus salariaux ou des autres. Le problème que nous avons, d'une manière générale, c'est que si l'on veut, encore une fois, avoir une diminution du chômage, on est dans un monde ouvert, on est dans un monde ouvert où les consommateurs français et européens achètent ce qu'ils veulent. Et c'est un acquis que personne n'envisage de remettre en question, hein, d'interdire aux consommateurs, et surtout pas aux consommateurs européens, d'avoir accès au meilleur rapport qualité-prix. Donc si l'on veut de la création d'emplois, il faut qu'on ait le meilleur rapport qualité-prix. Les Allemands ont une lutte contre le chômage qui a été extrêmement efficace, mais c'est parce qu'ils ont arbitré modération salariale contre formidable diminution du chômage. Donc c'est un élément qu'il faut avoir en tête en permanence. Naturellement, dans la justice, naturellement en faisant attention aux plus pauvres et aux plus démunis, dont j'ai dit à quel point nous étions nous-mêmes attentifs à leur message.
Bien, que puis-je faire pour vous?
Voilà, nous venons de voir le monstre de l'inflation et les dégâts qu'il provoque. Est-ce vous qui vous en occupez?
Bien sûr, parce que c'est notre travail d'assurer la stabilité des prix. Nous nous efforçons de maintenir l'inflation en dessous, mais proche de 2% à moyen terme.
Mais comment faites-vous?
Nous cherchons à savoir si des risques menacent la stabilité des prix.
La stabilité des prix.
Mais alors, autant vous insistez sur l'inflation, sur les salaires, par exemple, vous intervenez pas publiquement pour dire qu'il faudrait un relèvement de l'impôt sur les sociétés en Irlande ou même en France, puisque l'impôt sur les sociétés était de 50% dans les années 80, il est aujourd'hui un impôt sur les sociétés de 33,3%, et en vérité, pour les entreprises du CAC 40, il est de 9%. Et quand on propose des taxes sur les transactions financières, vous dites, là aussi, que vous êtes contre.
Non, il faut toujours être mu par la recherche de son intérêt. Quel est l'intérêt des Français? C'est d'avoir une diminution importante du chômage. Et il faut en prendre les moyens. Si on a une taxation des activités productive en France qui est supérieure à celle des activités productives à l'étranger, qu'est-ce qui se passe? Les gens investissent à l'étranger et pas en France, et on n'a pas d'emploi en France. Donc il faut regarder tous les dossiers sous l'angle, disons, de l'intérêt supérieur. L'intérêt supérieur de la zone euro dans son ensemble, je ne parle pas de la France en particulier, l'intérêt supérieur de la zone euro, c'est évidemment qu'on arrive à sortir du chômage de masse qui est notre problème lancinant depuis des dizaines d'années. Pour le reste, la justice sociale est essentielle. Mais ce n'est pas, à mon avis, en ayant une taxation des entreprises supérieure à celle que nous avons dans les autres pays, et certainement pas supérieure à ce qu'on a dans les pays émergents, que l'on va créer de l'emploi en France. Il y a la justice sociale, d'un côté, qui est fondamentale, et puis l'objectif, qui est aussi un objectif de justice sociale fondamentale, c'est que tout le monde est un job, tout le monde est un emploi.
Elles sont grandes, elles sont cotées en bourse, mais à résultat équivalent, elles paient moins d'impôts que les PME.
Itélé.
Elles, ce sont les entreprises du CAC 40 qui bénéficient en moyenne d'une pression fiscale inférieure de 20 points à celle des petites et moyennes entreprises.
6 juillet 2011.
Le rapport parlementaire cité par les Échos stipule qu'entre 2007 et 2009, 4 firmes du CAC 40 n'ont pas payé d'impôts sur les sociétés, comme Total au printemps cette année, non imposable alors qu'elle réalisait le plus fort bénéfice du CAC. En cause notamment des exonérations de charges dont les grands groupes peuvent plus facilement jouer. Gilles Carrez veut ouvrir le débat sans déstabiliser les entreprises. Sa crainte, un assèchement des recettes de l'impôt sur les sociétés.
Messieurs, dames, bienvenue pour cette première. Cette soirée pour dire oui au refus de la misère. Grâce à vos dons, à votre grandeur d'âme, la France d'en bas secours, enfin la France qui gagne. Vous savez que l'argent ne fait pas le bonheur. Dans 3 heures je veux voir exploser le compteur. Plus grande sera votre générosité, plus confortable leur parachute dorée. Le sida démodé, pensez plutôt aux riches, osez la charité. Quand je pense à tout ce que l'on pourrait faire, si vous aviez la décence d'être un peu moins sectaire, renflouer la sécu en taxant les métastases, sauver l'avenir des banques en prélevant à la base 100% du budget prévu pour l'éducation. Et je vous parle même pas de l'effet papillon. Si vous faites pas pour vous, faites-le au moins pour eux. Je vous parle de banquiers, merde, pas de lépreux.
Monsieur Trichet se décarcasse et s'est décarcassé pendant toutes ces années, 8 ans à la tête de la BCE, 30 années dans le système économique, financier et bancaire, avec une idée fixe, lutter contre le chômage. Lutter contre le chômage, comment? En imposant et en retenant la stabilité, l'ayatollah de la stabilité monétaire. 30 ans. On pourrait lui poser la question, mais dites donc, ça marche pas votre truc, parce que le chômage ne fait qu'augmenter. Cette question-là, on peut espérer que François Ruffin, qui est en face de M. Trichet, à Francfort, lui posera, à moins qu'il lui pose d'autres questions.
Mais alors, est-ce que la solution... Parce que là, quand on parle de réforme structurelle, ça semble être un peu le programme du FMI dans les années 80. Privatisation du secteur public, déréglementation du marché du travail, c'est un peu le programme du FMI dans les années 80. Il n'a pas fonctionné en Amérique latine, il n'a pas fonctionné en Afrique, le programme du FMI dans les années 80. Pourquoi est-ce qu'il fonctionnerait aujourd'hui pour la Grèce, pour l'Italie, pour l'Espagne, pour la France ?
Ce n'est pas exact ce que vous dites. Dans la crise présente, quels sont les pays qui jusqu'à présent, il faut rester très très prudent toujours, mais enfin qui jusqu'à présent ont remarquablement résisté à la crise ? Ce sont les pays émergents. Ce sont les pays d'Amérique latine qui étaient en effet dans les plus grandes difficultés dans les années 80, j'ai bien connu ça moi-même, j'étais aux premières lignes, et qui, grâce à leurs réformes structurelles, se sont retrouvés aujourd'hui dans une situation de beaucoup plus grande résistance. Nous avons eu un remarquable comportement de l'Afrique,
dans la période présente. Donc je ne dirais pas que les choses sont aussi simples que vous avez dites. Il y a des réformes qui peuvent s'avérer extrêmement dangereuses, et ça a été le cas de beaucoup des réformes financières, mais il y a des réformes qui sont extrêmement opportunes. Ce sont les réformes qui permettent, si vous voulez, de faire fonctionner mieux l'économie en général, en permettant aux forces productives de l'économie de se libérer. Et ça, c'est plutôt un succès, en effet, de tous les pays émergents, pratiquement sans exception.
On a une banque centrale qui entend traiter les pays de l'Union européenne comme le FMI a traité pendant des tas d'années, pendant des décennies, les pays pauvres en développement.
Jacques Généreux.
Hein, en leur imposant leur système, leur modèle économique.
Secrétaire général à l'économie au parti de gauche.
En échange de ses prêts.
Justement, dans ma discussion avec Jean-Claude Trichet, je lui dis, mais ce que vous faites, les réformes structurelles que vous proposez, c'est les plans d'ajustement structurel.
Absolument.
Qu'a mis en place le FMI dans les années 80 et 90 en Afrique, en Amérique du Sud, et ça n'a pas marché, je lui dis. Jean-Claude Trichet ne conteste pas la comparaison, mais il me dit si ces plans d'ajustement structurel ont marché.
Ce qu'il dit est une contre-vérité, puisque la Banque mondiale elle-même et les rapports du FMI eux-mêmes ont reconnu que la méthode qui avait été employée pour sortir à la fois de la crise de surendettement, des problèmes financiers, avait donné des résultats très médiocres et que en réalité, il fallait donner la priorité à la reconstruction des États, d'une administration efficace, bref, de tout ce qui est les prérequis qui manquaient ou qui faisaient défaut avant de pouvoir envisager une ouverture à une espèce d'économie de marché. Donc on a les rapports officiels des institutions elles-mêmes qui reconnaissent que même d'un strict point de vue libéral, ils ont mis la charrue avant les bœufs.
Donc il reste un homme qui croit encore au plan d'ajustement structurel du FMI, c'est Jean-Claude Trichet.
Mais c'est pour ça qu'on l'a choisi, figurez-vous. Pourquoi on a choisi Jean-Claude Trichet et pourquoi on a désigné certaines personnes à la direction des institutions de ce type? C'est justement parce que on sait que ce ne sont pas des intellectuels ou des universitaires ou des économistes qui réfléchissent, qui font marcher leur tête en fonction de la situation, mais pour leur adhésion à des dogmes et à une doctrine. Et Jean-Claude Trichet, il est là précisément pour son incapacité totale à changer d'opinion et d'avis et pour réagir en fonction de l'histoire. Il est là parce que c'est le fidèle soldat qu'il va appliquer la doxa de l'inflation minimale la plus faible, que cela doive ou non conduire l'Europe au chaos, à la récession. C'est pour ça qu'il est là.
Alors, encore 5 minutes.
Mais enfin, je pensais que vous alliez m'interroger plutôt sur la Banque Centrale Européenne que sur des sujets entièrement politiques. Là, je dois dire, je ne suis pas sur mon terrain. Là.
Mais moi, je fais un truc sur toute votre carrière.
Oui, oui, mais moi, je suis pas un homme politique en plus. Moi, j'ai.
Ah bah quand même.
Vous nous posez
les décisions, les réformes structurelles qui sont proposées.
Oui.
Justement, vous quand même de temps en temps, vous intervenez quand même dans le débat politique. Vous êtes intervenu sur le CPE pour dire que vous étiez favorable à plus de souplesse sur le marché du travail. Au moment de la réforme de la Sécu en 95, vous êtes intervenu également.
Écoutez, c'est une grille entièrement politique. Là, je suis un peu surpris.
Là, les réformes qui sont menées en ce moment partout en Europe, ce sont des réformes sur les salaires, sur les retraites, sur les privatisations. C'est-à-dire que si vous étiez resté conseiller de Valéry Giscard d'Estaing ou directeur de cabinet d'Edouard Balladur, on dirait que c'est un programme de droite, que c'est un programme néolibéral. Et du fait que vous êtes à la Banque Centrale Européenne, c'est toute la force de votre discours, toute votre réussite, c'est que finalement, vous avez rendu ces réformes, vous leur avez donné la couleur de la nécessité.
Non, je crois très franchement que ce n'est pas la bonne grille de lecture du tout, du tout, du tout. D'abord, la Banque Centrale Européenne, comme toutes les banques centrales nationales, elle est au service de toutes les sensibilités politiques, elle est au service de tous nos concitoyens et, comme je l'ai dit, avant tout des plus pauvres et des plus démunis d'entre eux. Maintenant, vous avez une grille d'interprétation qui ne me paraît pas non plus être bonne sur le plan des réformes structurelles. En Allemagne, c'est la gauche qui a mené à bien les réformes structurelles dans les années 2004-2005, qui ont été d'ailleurs extrêmement ambitieuses et qui ont permis de diminuer assez considérablement le chômage. C'est la gauche qui a mené ces réformes. Donc, je crois qu'il ne faut pas faire un découpage qui serait simpliste, à mon avis. Encore une fois, une banque centrale, de toute manière, est au service de toutes les sensibilités politiques par construction. Il ne peut pas en être autrement. Ma fierté, c'est que nous ayons fait ce que nos démocraties politiques nous ont demandé, dans toute leur sensibilité, c'est-à-dire de donner la stabilité des prix autant que possible dans une période très difficile. Nous avons donné la stabilité des prix à 332 millions de concitoyens. 332 millions de concitoyens. Nous croyons non seulement légitime mais indispensable de dire ce que nous croyons devoir dire s'agissant des meilleurs moyens pour diminuer le chômage de masse. Bien entendu, dans la justice, en respectant ce que nos démocraties politiques pensent. Ça n'a rien à voir avec la droite ou la gauche, ça. Mais encore une fois, nous sommes apolitiques.
Ma banque est mon amie, elle s'occupe de moi. Ma banque est ma mama et je lui dois ma vie. Ma banque est mon ferment, ma terre est mon sang. Ma banque est le cordon qui guide et me nourrit. Gloire à ma banque, gloire à ma banque, gloire à, gloire à toi.
Ça mérite un petit peu de silence quand même, hein, après un chef-d'œuvre comme ça, gloire à ma banque. Gloire à ma banque et intervention, à nouveau, de Jacques Généreux, par rapport, je pense, à ce que vient de dire M. Trichet.
Lors de la conférence de presse de Jean-Claude Trichet à Francfort, consacre un paragraphe aux structural reforms, aux réformes structurelles, en disant que il faut désindexer les salaires dans les pays où c'est encore indexé, qu'il faut faciliter les licenciements, réformer le code du travail, privatiser les secteurs publics, et ainsi de suite. Bon, et là, je lui demande, mais j'ai l'impression que vous êtes candidat à l'élection en 2012. Et lui, il me répond, non, nous, c'est technique. Vous, monsieur Généreux, vous n'êtes pas un économiste sérieux. Vous n'êtes pas un économiste neutre, objectif, scientifique, puisque vous êtes engagé. Vous êtes engagé sur le terrain politique, vous êtes engagé au parti de gauche, vous soutenez Jean-Luc Mélenchon pour la candidature à la présidentielle, tandis que monsieur Trichet, lui, quand il propose toutes ces réformes structurelles, qui constituent, je pense, un vrai programme politique, lui, il fait pas de politique. Lui, on peut avoir confiance en lui parce que c'est un expert, c'est un homme au-dessus de la mêlée, finalement, Jean-Claude Trichet.
Oui, bien sûr que non, mais ils font de la politique, ils ne font que de la politique, hein, c'est-à-dire qu'ils imposent un modèle, hein, qui est le modèle néolibéral, c'est-à-dire la bonne société, celle dans laquelle il y aurait un État minimal, hein, qui assure juste l'ordre et la répression des méchants qui veulent pas respecter le système, le marché et le capitalisme, et pour le reste, une société livrée à la marchandisation, c'est-à-dire où tout relève de l'échange marchand, y compris l'éducation, la santé, tout ce qu'on met, nous, Français, plutôt dans le service public, tout ça doit être rendu à l'initiative privée, au marché. Donc, il fait de la politique au nom d'une idéologie, mais comme toujours, et c'est d'ailleurs ça, c'est un signe, hein, c'est un moyen de distinguer et repérer. Quand quelqu'un vous dit qu'il ne fait que de la technique, et justement pas de l'idéologie et de la politique, c'est que vous êtes en face d'un pur idéologue qui ne fait que ça, et qui vous manipule. Parce que bien évidemment, s'ils avançaient leur politique en expliquant que c'est un choix politique, que ça correspond à un modèle de société particulier qu'ils pourraient décrire. Mais le problème, c'est que quand s'ils décrivent le modèle de société qui va avec les politiques qu'ils mènent, les gens, ça leur donne envie de gerber, c'est tout. Et donc personne ne va adhérer spontanément au projet de société que nous proposent les néolibéraux. Donc éventuellement, on les soutient ou on les tolère uniquement dans les populations parce qu'on croit qu'on peut plus faire autrement. Qu'il y a pas d'alternative. Hein. Taina, there is no alternative. C'est le seul truc qui marche. Mais pour que ça marche, il faut qu'il présente ça comme l'effet de loi universelle de l'histoire, de l'économie, comme un truc technique, comme un mouvement qui s'impose à eux-mêmes, sur lequel ils n'ont aucun pouvoir. Ils ne sont que les messagers qui nous expliquent comment ça marche. Mais la question de savoir si on veut que ça marche comme ça ou pas ne se pose même pas. Ils vous expliquent, c'est comme ça. Le monde est comme ça, les choses marchent comme ça. S'ils présentaient ça pour ce que c'est, et qui pourrait être honorable, pour un choix, correspondant à une certaine idée de la bonne société, du bon modèle, s'il le présentait comme ça. Mais il mettrait évidemment dans la tête des gens ce poison mortel pour eux qu'il s'agit d'un choix politique.
Donc il y a une alternative.
Et donc il y a une alternative. Et si vous dites aux gens, qu'est-ce que vous voulez choisir, une société sauvage ou une société solidaire, bon, il y en a 20% qui vont choisir la sauvage et 80% qui vont choisir la solidaire. Et alors inversement, si vous voulez reconnaître quelqu'un qui est digne de foi et crédible, c'est tous les gens qui disent, voilà, moi, bon, je suis économiste, donc je peux vous expliquer comment ça marche, enfin, les mécanismes, mais je vous préviens dans le même temps que moi, je fais pas ça uniquement pour faire de la belle théorie et parler, mais c'est pour que ça ait une utilité. Donc je ne suis pas neutre dans l'histoire, dans le monde où je me trouve, je suis obligé de prendre position et de choisir mon camp, et donc je m'engage en faveur d'une position parce que j'ai tel projet, j'ai tel modèle de société. Et donc j'explique mon modèle de société et mon projet. Alors quand vous dites ça, eh bien à la fois vous revendiquez le fait justement d'avoir une idéologie, d'avoir un choix politique. Mais c'est ça qui devrait rassurer les gens. Si vous êtes en face de quelqu'un qui a un projet politique, qui vous le dit, qui vous l'explique, donc vous êtes prévenu. Et donc à vous être raisonnable et doué d'intelligence, ensuite d'apprécier son discours et de le juger en connaissance de cause. Et il faut en revanche toujours se méfier de ceux qui disent « Non, nous, on fait pas de politique, on fait pas d'idéologie. » Parce que ça veut dire qu'ils sont en train d'en faire une et qu'elle est tellement pas avouable que les raisons pour lesquelles ils les font sont tellement abominables qu'ils peuvent surtout pas vous dire qu'ils font de la politique.
Alors, Monsieur Trichet, une dernière question. C'est une donnée publique, votre salaire est de 367 863 euros. C'est moins que des PDG, c'est moins que la plupart des footballeurs et des acteurs, mais c'est plus que le président de la commission, qui gagne moins que vous. C'est, j'ai vérifié, qui gagne aux alentours de 300 000 euros. Et c'est 2 à 3 fois plus que le président de la réserve fédérale américaine. Oui, 132 000 euros, je vois qu'il y a une... c'est 132 000 euros pour le président de la réserve fédérale américaine. Est-ce qu'il n'y a pas une question de morale quand on vient aujourd'hui prôner l'austérité, le gel des salaires, l'allongement de la durée de cotisation pour les retraites, de réduire soi-même son salaire et de ne pas voir un salaire qui soit 20 à 30 fois le SMIC, le salaire minimum en France?
Je ne fais pas les comparaisons que vous dites. Je vous laisse la responsabilité des chiffres pour ce qui concerne les autres. Je n'ai pas eu le temps de vérifier quoi que ce soit. Je suis très conscient du fait que j'ai un salaire élevé. C'est une évidence absolue. Si l'ensemble des institutions européennes considèrent qu'il est légitime de donner ce salaire, je le prends comme légitime. Je suis moi-même, j'ai toujours été partisan de payer des impôts et de payer les impôts que la démocratie politique souhaite que nous payions. J'ai toujours considéré que la justice sociale, encore une fois, était un élément fondamental qui passait aussi par la fiscalité. Je dois dire aussi que les banques centrales en général doivent aussi recruter collaborateurs qui soient de très haut niveau, parce que nos responsabilités sont absolument écrasantes. C'est une responsabilité, vous pouvez l'imaginer, assez lourde que d'être responsable de la stabilité des prix pour 332 millions de concitoyens.
Merci beaucoup.
Bien.
Voilà, merci à tous. Merci à monsieur Jean-Claude Trichet. Merci à Jacques Généreux. C'était le dernier volet du reportage de François Ruffin. Francfort, capitale du capital, merci à tous. Paul Mercier, Gianni Vattimo, Serge Halimi, Clément Fontan, Miguel Portas, Paul Murphy, Emmanuel Larue, Pascal Canfin, Philippe Rispal et Gianfranco Battistini. Jacques Généreux, La grande régression aux éditions du Seuil, c'est son bouquin. Ordre monétaire et chaos social de Frédéric Le Baron, c'est aux éditions Le Croquant. Et une fois encore, je vous conseille le dernier numéro de Manière de voir du monde diplomatique, intitulé Le casse du siècle, qui tourne autour des thèmes que nous avons évoqués tout au cours de cette semaine. Vous retrouvez toutes les informations sur le site de France Inter, à la rubrique émission Là-bas si j'y suis, où vous pouvez réécouter cette émission. Vous pouvez également la réécouter sur le site là-bas.org, là-bas.org, où vous pouvez faire des commentaires, nous écrire des commentaires toujours. Bienvenue à la technique aujourd'hui, Yann Bouillot et Gilles Gaillard. C'est Bertrand Chometon et Franck Allerer qui ont réalisé cette émission, assisté de Marina Puyez. Grégory Salomonovitch attend vos messages sur le répondeur de la base, j'y suis, au 01 56 40 37 37, 01 56 40 37 37.
Quand on achète un logement, on est toujours un peu perdu. Heureusement, la certification NF Logement vous aide à vous y retrouver. Choisir un logement certifié, c'est l'assurance d'un logement de qualité, confortable et performant. Et en plus, avec le label BBC, bâtiment basse consommation, vous êtes sûr de réaliser les économies d'énergie. Pour plus d'informations, rendez-vous sur qualitel.org.
C'était un message de Qualitel, l'association pour la qualité du logement.
Vous avez racheté une boulangerie, changé la devanture, repeint l'intérieur. Vous avez trouvé une vendeuse charmante.
Vous avez épousé la vendeuse charmante.
Et la cerise sur le millefeuille, c'est que vous pouvez aussi faire des économies sur l'éclairage.
Appelez votre conseiller EDF Pro. Il pourra vous mettre en relation avec des partenaires qualifiés pour rendre l'éclairage de votre local plus économe en énergie. Plus d'informations sur EDF Pro au 0810 333 776. Prix d'un appel local hors surcoût éventuel selon opérateur. L'énergie est notre avenir, économisons-la.
France Inter présente Tartuffe de Molière, mise en scène par Éric Lacascade. Derrière la façade et la bouffonnerie du texte, il y a dans Tartuffe l'expression de passions humaines. La jalousie, le désir, la haine, l'amour du pouvoir. Tartuffe, serait-il l'homme qui comble les vides, exprime les non-dits et révèle les antagonismes? Retrouvez Tartuffe au Théâtre Les Gémeaux à Sceaux du 6 au 23 octobre dans les émissions de France Inter et sur franceinter.fr.
Pile poil 16h sur France Inter. Bonne fin de semaine à tous. On se retrouve lundi à 15h pour là-bas si j'y suis. Je vous laisse pour les infos avec Hélène Philly. Salut.
Saluée par de nombreuses personnalités du monde, la nouvelle prix Nobel de la paix, Ellen Johnson Sirleaf, bénéficie d'un sérieux coup de pouce dans son pays, le Liberia, où elle brigue un second mandat de chef à la présidence. Son principal opposant estime que ce prix est inacceptable, non mérité. Il récompense son combat pour le droit des femmes et elle le partage avec une autre militante libérienne, Lema Bowie, et la journaliste yéménite Tawakkol Karman, figure de l'opposition au Yémen. En Syrie, la répression féroce a fait 7 nouvelles victimes. Aujourd'hui, 7 manifestants tués par balles par les forces syriennes. Elles ont ouvert le feu pour disperser des rassemblements hostiles au président Bachar al-Assad après les prières hebdomadaires à Damas et à Homs. Aucune divergence franco-allemande, Bercy l'assure cet après-midi. Nicolas Sarkozy et Angela Merkel sont sur la même longueur d'onde au sujet de la recapitalisation éventuelle de banques européennes. Les sources de capitalisation doivent d'abord être privées, mais en dernier ressort, des capitaux publics pourraient être injectés. Ce sera le sujet d'une rencontre entre le président français et la chancelière allemande dimanche à Berlin. Le ministère du Budget se félicite de voir le déficit budgétaire de l'État baisser 20 milliards de moins fin août que l'année dernière à la même époque. Sur l'ensemble de l'année 2011, il devrait avoisiner 95 milliards d'euros dans les clous pour le ministère qui espère ramener le déficit public de 7,1% du produit intérieur brut à 5,7% cette année. Un retour à la normale d'ici à demain. Voilà pour les dernières nouvelles à la SNCF. La reprise du trafic est progressive cet après-midi. 8 à 9 TGV sur 10 au départ ou à destination de Paris et un TER sur 2. Un TGV province-province sur 2 est prévu dans l'après-midi. Les réseaux Transiliens, Thalys, Eurostar, Lyria circulent normalement. Le contrôleur de la SNCF, violemment agressé hier, est lui toujours sous surveillance médicale. Celui qui l'a attaqué au couteau est en garde à vue. Il a affirmé aujourd'hui ne pas se souvenir de son geste. Il n'a pas obtenu la grâce du président. Ses proches poursuivront le combat. Les soutiens de Dany Le Prince ont déposé une plainte pour faute lourde devant le Conseil supérieur de la magistrature contre un procureur. Ils évoquent des entraves dans l'enquête et notamment des fautes dans la destruction des scellés. Dany Le Prince a été condamné à la perpétuité pour un quadruple meurtre en 1994 dans la Sarthe. Il est revenu sur ses premiers aveux et clame depuis son innocence. Le Parisien aujourd'hui en France, absent des kiosques, aujourd'hui aujourd'hui, les journalistes du quotidien sont en grève. Ils protestent contre le plan de la direction qui prévoit une cinquantaine de départs. Et demain dans le sud, vous ne pourrez pas acheter Midi Libre. Là encore, grève contre des suppressions de postes annoncées.
Les liaisons heureuses. Colombe Schneck.
Ce samedi, en partenariat avec le quotidien Le Monde, Pascal Rambert pour sa pièce Clôture de l'amour au théâtre de Gennevilliers.
En fait, c'est une pièce sur la douleur.
Et Eric Reinhardt pour son roman Le système Victoria, édité chez Stock.
C'est un roman très 18e siècle. C'est traversé. C'est un roman impitoyable comme les romans impitoyables du 18e.
Les liaisons heureuses. Demain, à partir de 15h.
France Inter.
La différence.
16h04 sur Inter. Didier Barrault, bonjour.
Bonjour, merci. Hélène Filly, on vous retrouve à 17h pour d'autres informations, c'est
à
ça?
À tout à l'heure.
À tout à l'heure.
Quand la musique donne sur France Inter.
Et juste avant de retrouver nos deux invités de cet après-midi, Gaëtan Roussel et Agoria, le mix libre du mois d'octobre. Il est tout chaud, il est tout neuf, il est tout beau. Il s'appelle Green Shape, une vie qui balance entre Kurt Cobain et Johnny Cash. Une gueule qui aurait pu être cassée par la boxe, mais quand la musique donne, elle peut sauver du chaos sur le ring.
Get up here and go back lead. Wait on your kisses to feel better. Could not bear that she got love. Could not bear that she gets stronger. La la la.
Voici venir le scope. Il fallait bien que le chanteur ténébreux du groupe Asile se perde dans la forêt pour ressusciter une pop sous influence divine entre Dark et Dao.
Dans la forêt, je te retrouve à l'heure opportune. Un rendez-vous improvisé sous la lune. Sourire crispé. Situation compliquée, je sens ton souffle qui me frôle le cou. Un pistolet chargé me caresse la joue. Tu me dis cette fois c'est moi qui joue. Dans la forêt, la première détonation résonne. Un coup de feu, puis de mon corps qui frissonne. Puis doucement s'écroule.
Composer, un drôle de nom pour un duo. Lorsqu'un songwriter rencontre un sound designer, il y a forcément du bon son, mais aussi une sérieuse aptitude à faire danser les foules comme il se doit.
The walls are closing in. The forest start gasping for breath. Check, check, check for breath. Check, check, check. I'm gonna blur into nothing.
Joachim a pris des coups de soleil qui du même coup ont fait fondre ces monstres fous qui hantaient jadis sa musique. DJ, producteur et désormais roi de la pop, c'est l'Eden Electro.
Le mix libre, à retrouver en détail sur franceinter.fr. Quand la musique donne...
Rock, musique électro, techno...
Chanson, rap...
La musique d'aujourd'hui, en fait, de la musique moderne.
La musique, elle est juste là, comment... C'est une vibration.
Didier Varrault.
Il est né à Lyon, il est né à Rodez. Il est DJ, producteur et patron de sa petite entreprise. Il est auteur, compositeur, interprète. Il a un père architecte, il a un père prof de maths. Il a suivi des études de cinéma dans une école d'audiovisuel. Il a obtenu un DESS en urbanisme. Au commencement, il y a eu l'Hypnotic Club sur les pentes de la Croix-Rousse. Au commencement, il y a eu le groupe Caravage. Il a eu sa trilogie, Jeff Mills, Laurent Garnier, Kevin Sanderson. Il a eu sa trilogie, Tom Waits, Nick Cave, Violente Femme. Il a fait chanter Tricky, Néné Chéri et sa maman. Il a écrit pour Vanessa Paradis, Alain Bashung et Rachid Taha. Il aime l'amour à l'italienne. Il aime sa femme depuis le lycée. Il aime la cuisine. Il porte le maillot comme Platini, en dehors du short. Il prône l'impermanence selon Siddhartha Gautama. Il aime l'intranquillité de Fernando Pessoa. Il s'appelle Agoria. Il s'appelle Gaëtan Roussel. Deux noms en deux initiales. Agoria Gaëtan, AG. Quand la musique donne, voici venir AG. AG, ce n'est pas seulement Assemblée Générale. Cet après-midi, c'est Agoria et Gaëtan Roussel sur France Inter, l'endroit pour une drôle de rencontre. Bonjour Gaëtan Roussel.
Bonjour.
Bonjour Agoria.
Ben bonjour.
Vous vous rencontrez pour la première fois?
Oui.
Ça c'est vrai. Tu confirmes Agoria? Alors, petit rituel, question que vous avez envie de vous poser pour bien vous rencontrer. Agoria, une question à Gaëtan Roussel?
Ben c'est vrai que sur le papier, là, on a l'air d'avoir des univers qui sont très distincts. Donc moi, je me posais la question, quelle était son approche et son regard sur la musique électronique et comment il se sentait par rapport à ça?
Gaëtan Roussel.
Ah, c'est la musique électronique, elle est venue finalement dans ma discothèque assez tard par rapport à mes premières références. Et elle m'attire de plus en plus, donc j'ai pas une culture très développée. Mais j'aime l'idée de répétition, par exemple. C'est quelque chose qui m'attire, qui m'intrigue. Et donc voilà, j'ai essayé petit à petit